Et si la méthode la plus redoutable pour devenir vraiment engagé et résilient cette semaine, bah, c'était pas de scroller l'actualité avec anxiété.
C'est clair, ce serait trop beau.
Ouais. Et si c'était plutôt de juste fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et d'admettre, mais de façon totalement transparente, qu'on est complètement épuisé.
Ça semble complètement contre-intuitif, on est d'accord.
Totalement. Mais pour cette nouvelle immersion, on va analyser un document sonore diffusé aujourd'hui même. Donc on est le lundi 17 août 2026.
Un document qui utilise très exactement cette approche.
C'est ça. Alors c'est une émission matinale qui s'intitule Prière du lundi, foi, espérance et force intérieure.
Et c'est un document vraiment remarquable. L'émission est présentée par Félicité Amania Ra Vincent. Elle est réalisée par GV et elle est diffusée sur Radio Tam Tam Africa.
Au sein d'un programme très spécifique, non?
Ouais, un programme qui porte le nom de Tambour Parlant Communication. Et en fait, si la forme ressemble beaucoup à une invocation religieuse assez traditionnelle, destinée à bien commencer la semaine, bah le fond est d'une toute autre nature.
D'accord, décortiquons tout ça. Parce que notre mission, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment de révéler la mécanique cachée de cette diffusion.
Absolument.
Sous son vernis spirituel, on a affaire à une structure psychologique redoutablement moderne, en fait. C'est pas juste un simple recueillement, c'est presque un manuel tactique de survie mentale.
Un manuel conçu pour tisser un lien indéchirable entre la résilience intime de la personne et son engagement sociopolitique.
C'est fascinant. Par quoi elle commence, du coup?
Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la séquence qui est choisie pour amorcer cette transformation. Avant même d'aborder des concepts grandioses comme le destin ou la justice, l'émission s'ancre dans une réalité physiologique pure et dure.
C'est-à-dire?
Bah, elle commence par valider les luttes invisibles de l'auditoire. L'animatrice évoque la souffrance silencieuse, les inquiétudes familiales, les impasses professionnelles et surtout cette fatigue chronique que la société a beaucoup de mal à tolérer en général.
Ouais, cette fameuse fatigue qu'on essaye tous de cacher le lundi matin.
Exactement. Et elle ne demande pas de la surmonter tout de suite, elle demande de la constater.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle cite le psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Mais juste après cette phrase très biblique, elle propose une action super concrète.
Prendre une profonde respiration et déposer physiquement ses peurs.
Voilà. Et ça, honnêtement, ça ressemble plus à une technique de pleine conscience ou d'ancrage somatique qu'à une liturgie classique, non? Pourquoi utiliser la respiration profonde à ce moment précis?
Eh bien parce que biologiquement parlant, on ne peut pas rationaliser avec un système nerveux qui est en état d'alerte. Le lundi matin, face aux pressions, le corps est très souvent dominé par le système nerveux sympathique.
Le fameux instinct de fuite ou de combat, c'est ça?
C'est ça, le mode survie, totalement dominé par le cortisol. Donc, demander une respiration profonde, ça active le système nerveux parasympathique, ça abaisse le rythme cardiaque. Le texte utilise vraiment cette porte d'entrée corporelle pour introduire sa spiritualité.
Ah, c'est malin. Et c'est comme un bouton de réinitialisation émotionnelle, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, l'invocation à la Sainte Trinité qui suit, elle est formulée en termes très sensoriels. On demande d'illuminer les yeux spirituels, d'ouvrir l'intelligence, le cœur et la bouche pour apporter la paix et la vérité.
Donc, c'est pas du tout une prière de demande passive, c'est presque un recalibrage sensoriel.
Le terme est parfaitement juste. L'émission conditionne la physiologie de l'auditeur en purifiant métaphoriquement et physiquement les sens. Le but, c'est pas de créer une bulle de protection pour fuir le monde extérieur.
C'est l'inverse, en fait.
Totalement l'inverse. C'est une préparation de l'équipement psychique pour aller affronter ce monde. On valide la vulnérabilité corporelle pour construire par-dessus une base solide, inébranlable face à l'adversité.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois cet ancrage individuel établi, l'émission opère un basculement d'échelle qui donne le vertige, je trouve.
Ah oui, le changement de perspective est radical.
Ouais, on quitte la personne dans son salon, on dépasse même le cercle de ses proches ou des malades, pour embrasser soudainement une dimension macroscopique et géopolitique.
Le texte se met en effet à englober les personnes en précarité, les personnes isolées, les personnes en deuil, ceux qui cherchent un emploi, avant d'élargir la focale à toute l'Afrique.
À ces peuples et à ces diasporas, c'est ça, hein?
Oui, la prière demande la paix, la stabilité, la justice et la prospérité pour l'ensemble du continent.
Et elle s'arrête pas là. Elle dresse une liste hyper spécifique de professions.
C'est vrai que c'est assez unique.
L'animatrice mentionne les dirigeants politiques en priant pour qu'ils agissent avec intégrité et dans le respect de la dignité humaine. Elle demande la protection pour les journalistes, les éducateurs, les soignants, les travailleurs, les entrepreneurs et même les artistes.
Dans le cadre d'une émission matinale, c'est vrai que c'est saisissant.
Grave. On a plutôt l'habitude de voir la méditation du matin comme un moyen de se déconnecter de l'actualité, pas de plonger au beau milieu des salles de rédaction ou des parlements. Qu'est-ce que ce mélange révèle, selon toi ?
Si l'on relie cela à la situation globale, ce document propose vraiment une vision holistique, une lecture où le spirituel et le civique sont totalement indissociables.
C'est-à-dire qu'il fusionne la foi et l'action citoyenne.
Exactement. Historiquement, il y a certaines traditions ascétiques qui considèrent que la pureté s'obtient en se retirant du monde, en s'isolant. Ici, la rhétorique, elle est diamétralement opposée.
C'est une foi très active, quoi.
Oui. En incluant les journalistes, ceux qui cherchent la vérité factuelle, ou les entrepreneurs, ceux qui bâtissent l'économie, dans un espace sacré, la station de radio sacralise la fonction sociale de ces métiers. La foi est perçue comme un moteur de justice sociale.
Mais attardons-nous sur l'impact réel d'une telle démarche. Prier pour que les dirigeants soient intègres ou que les journalistes soient protégés, est-ce que ça a un véritable impact sur le fonctionnement de la société ? Ou est-ce que c'est simplement une façon de donner bonne conscience à la personne qui écoute ?
C'est une excellente provocation. Et si on regarde sur le plan de la psychologie sociale, l'impact se situe vraiment au niveau du changement de paradigme pour l'individu.
Comment ça ?
Lorsqu'un citoyen perçoit le travail d'un enseignant ou d'un soignant, non pas comme une simple transaction économique, mais comme une composante vitale d'une mission spirituelle et continentale, ça modifie ce qu'on appelle son lieu de contrôle.
D'accord. Donc, la perception de son propre pouvoir d'action...
C'est ça. L'engagement sociétal n'est plus perçu comme une corvée militante, mais comme le prolongement naturel de sa foi. Ça forge une communauté qui se sent investie d'une responsabilité collective. La personne ne prie plus seulement pour sa réussite personnelle, elle porte mentalement l'édifice social. J'invite d'ailleurs notre public à réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur la motivation quotidienne.
Mais ça représente un poids punitif colossal, non ? Si je dois, dès le lundi matin, en buvant mon café, porter le destin de l'Afrique, l'intégrité des politiciens et la vérité des journalistes, il y a de quoi s'effondrer sous la pression.
Ah, tout à fait. Et c'est justement là que la structure de l'émission dévoile son génie.
Ah.
Parce qu'elle propose une solution.
Elle propose un antidote psychologique immédiat à ce poids, dans les segments suivants qu'ils appellent méditation du jour et pensée du jour.
Ah oui, c'est là qu'ils parlent de recommencement.
Exactement. La source aborde frontalement le doute et l'obsession de la performance rapide. Le message central, c'est qu'il est toujours possible de recommencer. L'animatrice insiste sur le fait que les échecs d'hier, les blessures et les retards ne définissent en rien l'histoire de la personne, ni son avenir. La phrase qui résonne le plus fort pour moi, c'est « Il n'est pas nécessaire d'avancer rapidement ». Le texte prône vraiment de refuser le découragement, d'avancer doucement mais sûrement à son propre rythme.
Et de rester discipliné.
Ouais. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pour imager cette dynamique, oublions les métaphores habituelles de fondations de maisons qu'on ne voit pas ou de graines qui poussent. Pensons plutôt au fonctionnement d'un ordinateur.
Ah, tu penses au concept de la mémoire vive, la fameuse RAM ?
Exactement. Quand nous commençons une journée omnibilés par nos échecs passés ou terrifiés par les objectifs futurs, c'est comme si notre cerveau faisait tourner des dizaines d'applications lourdes en arrière-plan.
Et ça rame, forcément.
C'est le cas de le dire. La capacité de traitement disponible pour le moment présent, elle est quasiment nulle. La machine surchauffe, c'est l'anxiété totale. Ce que fait cette émission en disant « vos retards ne vous définissent pas et ne vous pressez pas », c'est fermer de force tous ces onglets en arrière-plan.
Elle libère la bande passante cognitive.
Exactement. Elle appelle cela les victoires qui ne font pas de bruit. C'est ce choix interne, très intime, de se relever et de ne plus laisser la peur gouverner. C'est l'antidote parfait à la culture de la hâte.
Et ça soulève une question hyper importante concernant la culture dominante actuelle. On vit dans un monde obsédé par la rapidité, ce qu'on appelle la « hustle culture ». Cette culture de la hâte perpétuelle, où la valeur d'un individu se mesure à sa visibilité et à la rapidité de ses succès.
Ce qui est épuisant.
Physiologiquement, ça maintient l'amygdale, le centre de la peur du cerveau, dans un état d'hypervigilance constant. En introduisant le concept de victoire silencieuse, l'émission propose une restructuration cognitive majeure basée sur la psychologie positive.
Et comment cette restructuration, elle opère concrètement chez la personne qui écoute ?
Elle opère par ce qu'on nomme la fragmentation du temps. Si on évalue sa vie sur une échelle continue, un échec passé pèse indéfiniment sur la motivation présente.
On traîne son boulet, quoi.
Voilà. L'émission, en déclarant que chaque matin est une chance de recommencer, coupe cette chaîne. Elle délie la valeur de la journée présente du poids des échecs d'hier. L'absence de pression sur la vitesse est une stratégie redoutable contre l'épuisement, le fameux burn-out.
Donc l'individu n'est plus évalué par l'éclat de son succès, mais par la discipline intime qu'il déploie pour simplement se relever.
Sur le long terme, cette constance silencieuse génère une résilience que l'urgence de la performance est tout simplement incapable de produire.
C'est un paradoxe fascinant. On a d'un côté des ambitions sociétales immenses, la justice, l'intégrité de dirigeants, la prospérité de tout un continent, et de l'autre, une tolérance radicale envers la lenteur individuelle et les échecs personnels.
C'est un équilibre parfait.
Ouais, et c'est cette dialectique qui nous propulse vers la dernière partie de l'émission, qui prend la forme d'un véritable manifeste médiatique et communautaire. Je trouve la transition brillante d'ailleurs.
La conclusion de l'émission réunit effectivement tous ces fils conducteurs. On y retrouve des vœux de paix, de santé et de sagesse. Il y a aussi une paraphrase de la célèbre prière de la sérénité.
Accepter ce qu'on ne peut changer et trouver le courage de transformer ce qui dépend de soi.
Exactement. Et ensuite, il y a un appel qui est lancé pour partager ces paroles de réconfort.
Puis le ton change subtilement. L'animatrice met en avant le slogan de Radio Tom Tam Africa qui est « La parole est une force ». Et elle lance un appel super clair à soutenir la station par des dons et des partages pour préserver, je cite, « une parole africaine libre, associative et indépendante ».
C'est vraiment l'aboutissement de toute la démonstration. Jusqu'ici, la parole servait à prier, à apaiser, à restructurer la pensée. Mais à cet instant précis, la parole devient l'instrument même de l'émancipation prônée tout au long de l'émission.
La transmission de ces idées est en soi une action, en fait. Mais permets-moi de faire l'avocat du diable un instant.
Je t'en prie.
Toutes les stations de radio associatives de la planète finissent par demander des dons, non ? C'est le modèle économique de base pour payer les serveurs et les factures d'électricité. C'est pas un peu exagéré de qualifier une simple levée de fonds de manifeste ou d'acte militant ?
C'est une objection légitime si l'on ignore le poids symbolique et historique convoqué par l'émission elle-même. Et la clé, elle réside dans le nom du programme. Tambour parlant communication.
Ah, les fameux talking drums. Comment ce nom éclaire toute cette dynamique ?
Historiquement, en Afrique de l'Ouest, notamment chez les peuples Yoruba ou Akan, les langues sont souvent tonales. Le sens d'un mot change en fonction de la hauteur du son.
D'accord.
Et les tambours parlants, grâce à des cordes de tension qui modifient la tonalité de la peau de l'instrument, étaient capables de mimer avec une précision inouïe la prosodie du langage humain.
Attends, vraiment, ils pouvaient imiter la voix humaine ?
Complètement. Ils ne faisaient pas que battre un rythme, ils dictaient des phrases complexes. C'était un moyen de communication à longue distance crucial.
Une technologie de communication super avancée, bien avant le télégraphe ?
Et c'était surtout un outil de pouvoir et de survie. Les tambours avertissaient les villages voisins des dangers, ils organisaient la résistance ou transmettaient des nouvelles à des kilomètres de distance à une vitesse phénoménale.
Ah ouais, je vois le lien.
Les colons l'avaient d'ailleurs très bien compris et ont souvent interdit leur usage pour empêcher les soulèvements. Par conséquent, lorsqu'une station de radio du XXIe siècle choisit de s'appeler « tambour parlant », elle se positionne comme un tambour moderne. C'est pas qu'un clin d'œil folklorique. Elle s'inscrit dans cette lignée de communication stratégique, vitale et résistante.
L'argument prend tout son sens, c'est vrai. Soutenir financièrement cette radio libre, ça revient pas simplement à maintenir une entreprise à flot ou à faire la charité. C'est un acte militant pour financer l'infrastructure de cette résilience qu'on vient de nous enseigner.
Exactement. Le slogan « La parole est une force » prend alors une dimension presque physique. Transmettre l'émission, partager la prière ou faire un don, c'est s'assurer que le tambour continue de résonner, de rassembler et d'informer.
C'est logique.
La logique est implacable. L'émission vous a donné les outils psychologiques pour ne pas sombrer face au tumulte du monde. Il est maintenant de votre responsabilité civique de garantir que cet outil reste disponible pour les autres. La boucle entre l'introspection individuelle et l'action politique est totalement bouclée.
Le voyage accompli en l'espace de quelques minutes de diffusion est tout bonnement magistral. Pour synthétiser un peu notre analyse à l'intention de notre public, on a commencé par une simple respiration, un acte de vulnérabilité où le corps reconnaît son épuisement en lien avec un verset de psaume.
Le point de départ idéal.
De ce point zéro, l'émission nous a propulsés vers une vision géopolitique où l'intégrité des dirigeants, le courage des journalistes et des soignants sont considérés comme des impératifs portés par la spiritualité.
Et face au poids de ces enjeux, elle a offert ce fameux bouclier cognitif.
C'est ça, une psychologie de la lenteur assumée en valorisant les victoires silencieuses contre la tyrannie de la performance et du burn-out. Et enfin, on a atterri sur la puissance d'une parole médiatique africaine libre, transformant la préparation mentale en un appel à l'action pour soutenir un véritable tambour parlant moderne.
Ce parcours illustre vraiment la sophistication de ce média. Il ne propose pas une échappatoire spirituelle face à la dureté de l'époque. Il fournit un véritable exosquelette mental pour affronter la semaine, alliant la douceur de la compassion à la fermeté de l'engagement citoyen.
Et c'est ce qui m'amène à une réflexion finale que j'aimerais soumettre à la réflexion de ceux qui nous écoutent. Un prolongement de ce qu'on vient d'explorer.
Je t'écoute.
Si, comme l'affirme l'émission, chaque matin nous offre l'opportunité de reconstruire nos fondations sans nous précipiter, et si, comme le dit la radio, la parole est une force capable de transformer un découragement intime en une victoire silencieuse, puis en une action collective.
Oui.
Quel est alors le coût sociétal de silence de ceux qui choisissent de baisser les bras? La question mérite vraiment d'être posée. Dans une époque où la fatigue nous pousse souvent au cynisme ou au retrait, le mutisme devient un enjeu majeur.
C'est une question puissante.
La véritable tragédie d'un lundi matin difficile, c'est peut-être pas l'échec personnel, ni même le fait d'être en retard sur ses ambitions. La tragédie, c'est l'absence. C'est de priver le monde d'une parole de réconfort, d'une action intègre ou d'une simple présence résiliente qui aurait pu, par ricochet, inspirer son entourage, voire un continent tout entier.
L'interdépendance de nos luttes silencieuses est une réalité indéniable. L'idée que notre résilience personnelle est la condition préalable de la solidité de toute notre communauté, c'est un moteur d'action incroyablement puissant.
C'est un changement de perspective radical pour appréhender la semaine qui s'ouvre. La vulnérabilité n'est plus une faiblesse, elle est le début de la force. Merci d'avoir partagé cette exploration riche et nuancée avec nous aujourd'hui.
Merci à toi, c'était passionnant.
À ceux qui nous écoutent, gardez ce tambour parlant en tête. Prêtez attention à vos propres victoires silencieuses et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de ces idées qui transforment notre perception du monde. À très vite!